Bonjour à tous et bienvenue sur le 128e Comics Weekly. Au sommaire de cette semaine, nous parlerons du grand démarrage de Superior Spider-Man. Bien sûr, nous parlerons d'autres Marvel Now avec entre autres Fantastic Four ou encore Avengers Arena. Du côté de l'indé, c'est la fin de Point of Impact ou le démarrage de Star Wars qui nous intéresseront. Et puis enfin, nous finirons avec DC et le crossover Hot World, Swamp Thing, Animal Man, mais aussi du Batman, du Superman et Earth 2. Et comme on l'oublie un peu trop souvent, nous ferons un petit tour du côté des TPB puisque nous parlerons des TPB qui sortent cette semaine. Je suis Steve et vous écoutez le 128e Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour parler des sorties, Mr. René Bunny.
Bonjour les gens.
Sam.
Bonjour, je suis heureux, je n'ai pas lu Superior Spider-Man.
Et King Ed.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
On commence avec la grosse sortie de la semaine chez Marvel, c'est le Superior Spider-Man que, en vrai journaliste, nous sommes deux à avoir lu. Hein.
Voilà,
deux
ouais.
Qui se sont désistés. Ouh, honte à eux.
Non, mais pour se désister, il faudrait s'être engagé à un moment. Je ne me suis jamais engagé à lire cette merde.
Ils ont tenu leur promesse parce qu'ils avaient promis qu'ils n'allaient pas les lire. Et,
ouais, voilà. Je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté longuement oui, alors... dans un comic shop, mais je ne l'ai pas lu.
Il a tenu à moitié sa promesse en fait.
Allez. Ah ben j'ai jamais dit que j'allais pas le regarder, j'ai dit que j'allais pas le lire.
Non monsieur, quand on dit non, c'est non, voilà, c'est comme ça. On commence donc avec Superior Spider-Man, je l'ai déjà dit, le mec qui est perdu dans ses fiches. C'est écrit par Dan Slott, dessiné par Ryan Stegman, qui s'ancre d'ailleurs. C'est donc le démarrage de la série Spider-Man, qui est en fait Peter Parker, mais Otto Octavius dans la tête. Bon, comment résumer ça? Il va péter la gueule au nouveau Sinister Six, encore une nouvelle mouture, je sais pas, on doit être à la V12 au moins des Sinister Six.
Non, on est à la V6 des Sinister Six.
Oh oui, c'est beau.
Merci.
Ouais, mais ça fait plus penser à la Légion des Losers ou à la... comment ça s'appelle? Le Sinister Syndicate avec...
Moi déjà, il y avait bien 4 sur 6 que je connaissais pas. Hein, donc,
ah bon?
Ouais.
Mais t'as jamais lu Spider-Man?
Bah j'en ai pas lu beaucoup de Spider-Man 616. Et le gars avec sa roue, là, je voyais pas qui c'était.
Ah, c'est Overdrive, le retour d'Overdrive, normal, Dan voilà. Slott.
Ah non, c'est pas Overdrive. Overdrive, c'est un autre mec. C'est Big Wheel, tout simplement.
Ah non, c'est Overdrive, il est bien appelé Overdrive. C'est Overdrive qui a tuné une roue.
Ah d'accord, non mais autant pour moi. autant pour moi, je croyais que c'était Big Wheel.
Je crois qu'à part celui qui avait son boomerang et puis Shocker, les autres, je les connaissais pas trop.
En même temps, c'est compréhensible venant de ta part que tu te plantes, hein, Bunny, puisque
bah
tu
oui.
l'as juste feuilleté, tu ne l'as pas lu. Hein,
et oui, et oui, moi je pensais que c'était Big Wheel. Donc en fait, c'est une référence à Big Wheel, mais c'est Override de Brand New Day. D'accord, mais c'est encore pire que ce que je pensais.
Bah,
alors.
Écrit par Dan Slott, hein, donc de toute façon.
Parce que ça aurait été drôle qu'ils remettent le vrai Big Wheel. Mais non, d'accord, ok.
On a donc une nouvelle version du Beetle, on a aussi le Speed Demon, qui joue ce
pile. Ouais, pardon.
Je sais pas où il était passé. Et puis le robot dont j'ai oublié le nom déjà.
Living Brain.
Brain.
Oui, Living Brain, voilà, quoi, merci.
De Amazing Spider-Man 8, l'épisode avec Flash Thompson qui affronte Peter dans un match de boxe.
Bon, bah, je crois que tout est dit en fait. Hein. Il y a juste.
Non,
on n'a pas tout dit là.
Non, mais l'épisode
on
n'a pas
dit grand-chose.
Alors je sais pas, Dan Slott a voulu nous faire une référence à Doctor's Horrible Single Long Blog avec un Peter Parker habillé en. Avec une espèce de veste tout attachée et des lunettes sur la tête. Bon, bah, si jamais ils cherchent à faire un film, ils sauront qu'engager Neil Patrick Harris, ça va être possible.
Une belle petite référence, ouais.
Et puis.
Ouais, des petites touches d'humour, quoi, mais.
Et puis, la seule image du comics, hein, c'est le gros décolleté de Mary Jane pendant qu'ils vont faire un repas. C'est tout ce que je retiendrai. C'est tout ce que je retiendrai de ce super Spider-Man numéro 1.
Oh bah, moi sans l'avoir lu, bah vas-y commence.
Ouais, bah que... moi je l'ai lu. Moi ce que je retiendrai c'est l'écriture que j'ai trouvé un petit peu facile et un peu trop appuyée, tout particulièrement mettre en avant le fait que ce nouveau Spider-Man est plus violent. C'est-à-dire que les méchants, toutes les deux minutes, ils disent « Ah mais dis donc, ils nous tapent plus fort, ah là là, ça fait mal, attention !» Bon ça, j'ai trouvé que c'était vraiment appuyé, on avait compris déjà dans le numéro 700 que Peter se retenait. Après il y avait toutes les scènes où on voit justement Octavius enfin qui regarde Mary Jane tout en pensant à autre chose aussi avec sa petite oreillette enfin voilà il a l'air d'un vrai gros con quoi personne ne trouve vraiment de changement en fait ne trouve quelque chose à lui redire J'ai trouvé ça un peu bof. Puis bon, bah, la fin était un peu ridicule, hein. On s'y attendait vraiment tous à ce que ce soit comme ça.
Bah, c'est
Et
encore plus que
ça.
Benny avait dit dans les anciens
Voilà,
épisodes
c'est
hein,
ça. Ouais.
du Comics
Et
Weekly.
c'est très facile. C'est très
Mais
facile.
voilà.
Peu de surprises. Par contre, un très bon Ryan Stegman, enfin, je veux dire, au niveau dessin, c'était quand même vraiment chouette.
Je suis entièrement d'accord. Moi, enfin, ce que j'ai trouvé de différent par rapport à ce que je m'attendais, c'est que c'était quand même mieux écrit que ce que je pouvais attendre au départ. Ça reste néanmoins mauvais. Clairement, pour moi, c'est un mauvais comique. Il n'a pas réussi à me faire une seule fois m'intéresser au personnage, donc.
Tu pourrais même dire clairement, hein, si c'est mal écrit.
Je ne rentrerai pas dans ce débat.
D'accord.
Bon,
Mais
bref,
non. Mais ouais,
pour
non
moi, c'est
mais.
un passe, quoi. Ça n'a pas d'intérêt pour le moment.
Juste en le feuilletant, deux, trois petites remarques. Effectivement, comme tu disais, King Edge, j'avais l'impression qu'il y avait une scène donc où il est en train de dîner avec Mary Jane. On a l'impression que le mec était, enfin, super vicieux comparé à Peter Parker et
Bah
ça
déjà, il
lui
l'écoute
ressemble pas
pas, en
du
fait.
tout.
On voit les bulles de Mary Jane et on voit que lui, enfin, on voit dans des petites bulles de pensée, enfin,
Qui
ce
pense
qui
à autre
n'est plus
chose.
des bulles de pensée
Ouais.
aujourd'hui, simplement de la description narrative, mais voilà, on voit qu'il ça couvre le dialogue et qu'il pense
Exactement,
complètement à
ouais.
autre chose.
Il se saoule la gueule, enfin voilà quoi.
Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle lui disait que c'était une mauvaise idée. Comme quoi, j'ai quand même lu des trucs, puisque en feuilletant, ton regard se pose sur des bulles avec des mots et tu peux pas t'empêcher de regarder. Bon, bref.
De toute façon, c'est ce à quoi on s'attendait, quelque chose de franchement pas fameux. On va pas rester 3 heures de plus là-dessus, hein, ça ne
Attends,
sert à rien.
oui, juste, trois remarques. Le fait que, à aucun moment elle se dit que c'est, par exemple, le caméléon, comme c'est déjà arrivé, ou quoi que ce soit. Donc, les personnages ne réagissent pas d'une manière, on va dire, très logique. Personne ne se rend compte de quoi que ce soit. Et puis, non, bah, sinon, c'est tout. Je sais plus d'ailleurs ce que je voulais dire.
Non, et puis la
Cette fin,
fin
oui, bah, cette
auquel tout
fin,
le
oui,
monde
alors,
s'attend.
cette fin, on a déjà une porte de sortie. Ce qui est quand même,
Mais on le savait très bien.
Ouais, mais enfin, c'est un peu gros pour quelque chose qui est censé être le nouveau statu quo et durer des mois. C'est-à-dire que là, il nous place sa porte de sortie et donc bon, bah, on sait très bien où ça va, quoi. Donc totalement inutile de lire ça, quoi.
La chose qu'on
C'est
avait déjà
vraiment une grosse
deviné dès le
parenthèse.
départ, de toute façon, donc
Ouais.
voilà. C'est Firestorm, enfin c'est tous ces personnages avec des personnalités multiples.
Ouh,
Incroyable.
rien qu'entre le Amazing Spider-Man 700 et ça, j'ai quand même économisé 12 dollars.
Tu vas finir riche à la fin de l'année, toi. Avec les crossovers qui va esquiver en plus.
Voilà, putain.
Bon, bah, donc, passe pour moi, King Ed.
Pour moi, c'est un petit check-it. Bon, quand même, c'est un numéro 1
Et
pour les
alors?
dessins de Ryan Stegman.
Ah,
Check-it.
ne fais pas comme beaucoup d'autres de la spéculation en achetant des numéros 1. C'est comme ça qu'on a des gros numéros 1 et c'est à cause de ça qu'ils nous relaunchent tout le temps les séries.
Non, mais ça vaut le coup de le lire pour vraiment se faire une idée quand même sur l'orientation que va prendre le titre. Par contre, bon, bah, par la suite, je sais pas si je vais lire le numéro 2.
On continue avec la sortie du troisième numéro de Thunderbolts, Bunny.
Et oui, Daniel Way au scénario, Steve Dillon au dessin, c'est toujours la série de la maturité. Non, je déconne quand même, faut pas déconner. Non, c'est marrant, toujours. Alors en fait, c'est simple, hein, c'est les Thunderbolts qui affrontent depuis le second numéro un dictateur sur une petite île, je ne sais où d'ailleurs, mais qu'importe, c'est pas le
C'est
propos.
donc Cuba et Fidel Castro?
C'est pas tout à fait ça, non,
Non,
mais en tout
c'est un
cas,
truc fictif.
oui, c'est un
C'est
truc
Sacha
totalement
Baron
fictif.
Cohen.
Ouais, ça pourrait s'apparenter plus à ça dans le délire, mais bon, c'est pas encore ça, c'est plus hardcore, on va dire. Au fait, Red Hulk, pour avoir des informations sur leur adversaire, ressuscite le leader. Enfin, le Red
Oui,
Leader, d'ailleurs. Oui.
hop.
Le gars avec la grosse tête.
Oui. Bah, en tout cas, il est tout rouge, donc je sais plus, j'ai dû louper des trucs. Il est plus vert, il est rouge, enfin bref, comme lui, je sais plus. Mais qu'importe. En tout cas, il le ressuscite pour avoir des informations. Et le final de cet épisode est grandiose. Parce que c'est une équipe, tu sens que l'équipe est complètement barrée et que ils sont. Enfin, c'est impossible qu'ils bossent tous ensemble. Et donc, il y a ce final qui est assez grandiose, totalement inattendu, et finalement, qui redistribue complètement les cartes. Donc, ouais, non, lecture sympa. Pour moi, c'est toujours un bail.
Un bail, carrément.
Ah oui. Un petit bail, mais un bail. Ah bah oui, moi j'ai bien aimé. Je sais pas qui d'autre l'a lu?
Personne.
Personne?
Personne.
Bah alors, donc voilà, oui. Moi je vous le dis, c'est un bail.
Non, mais c'est que
Moi
ta
j'aime
review
bien cette
paraissait
série.
pas super super enjouée, donc c'est pour ça que m'attendais
ah
pas.
Ah si, 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 non, mais non, mais il y a plein de trucs là, je vais rapidement, quoi. Mais non, non, c'est toujours aussi bon, je trouve.
Très bien. On va continuer avec la sortie du troisième numéro de Fantastic Four, King Ed.
Oui, Matt Fraction au scénario, au dessin Mark Bagley, qui est ancré par Mark Farmer. C'est le début de cette odyssée un petit peu où la famille Richards et compagnie qui sont partis dans l'espace vont essayer de découvrir des terres inconnues. C'est la première étape, ils arrivent sur une planète qui a l'air d'avoir des propriétés particulières qui pourraient peut-être en apprendre plus à Reed concernant la détérioration de sa peau. Donc ils décident de s'y arrêter. Donc c'est très odyssée spatiale un petit peu. On voit l'équipe qui se prépare pour comment aller sur cette planète, qui va y aller. Il y a un petit peu d'humour avec Johnny Storm et les enfants. Bien sûr, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Bon, c'est vite expédié hein, puisque ça fait très one shot, je trouvais ce numéro. C'était le but. C'est pas désagréable. J'ai bien aimé les dessins aussi. Je trouve que Bagley est vraiment à l'aise sur tout ce qui est cosmique comme ça, avec de belles planches.
Moi, j'ai l'impression qu'il veut faire vraiment ce côté aventure, un épisode, une histoire, et on passe à autre chose. Ça m'a vraiment fait penser à des séries d'aventures spatiales, type Star Trek ou Cosmos 1999, ce genre de série là, quoi.
J'aurais peut-être aimé qu'il lance peut-être un petit fil rouge ou un truc derrière. Là, c'est vraiment one shot.
Il y a un truc, par contre, qui m'a fortement dérangé dans cet épisode. Ils sont censés partir pendant un an, certes, mais en temps terrien, partir 4 secondes.
Tout à fait, ça m'a aussi fait bizarre parce qu'il y a un truc à un moment.
À un moment, ils font « Ah bah tiens, sur Terre, c'est à peu près le moment de se dire bonne année ».
Ouais, ce qui n'est pas logique du tout.
Ce qui n'est pas logique du tout, en fait. Voilà, voilà. Le mec tient ses deux séries et au troisième numéro se plante.
Ouais, c'est une erreur vraiment d'écriture. Faudrait poser la question à Matt Fraction.
On nous avait pas annoncé comme quoi c'était les festivités.
Ah oui, non, mais j'essaie de réfléchir. Je me dis, à moins que la bonne année soit dans les 4 secondes.
Bah oui, c'est ça qui est important.
Oui, voilà,
fréquent,
à moins
quoi.
Qu'il soit parti juste le 31 décembre à moins 4.
Pour eux, le temps va avancer normalement. Voilà, je pense que c'est ça. Pour eux, le temps va avancer normalement. Ils ont pris un compteur à partir du moment où ils sont partis. Mais bon, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Étant donné qu'ils vont se fêter la bonne année et s'ils reviennent sur Terre en 4 secondes, la bonne année sera pas passée, ça. Voilà, mais c'est vraiment pour chercher des poux à l'histoire, quoi. Mais
sinon, de toute façon, cette histoire de 4 secondes était totalement inutile, quand même, quoi. Faut bien dire.
4 minutes.
Oui, 4 minutes, oui, j'ai dit 4 secondes, pardon, oui, c'est vrai, c'est 4 minutes.
4 secondes.
Sinon, je trouve que Reed était bien écrit, c'était pas mal, ces petits monologues scientifiques, je trouvais ça assez sympa.
C'est sympa, bon, j'attends d'en voir plus, moi aussi, comme tu l'as dit, le manque peut-être d'un fil rouge. Finalement, le fil rouge, on sait lequel c'est trouver une solution à cette dégénérescence de ses pouvoirs, mais bon, peut-être appuyer peut-être un tout petit peu plus dessus. Bon, pour un premier épisode, c'est un one-shot, ça fait du bien aussi de lire des one-shots.
C'est pas mal, ouais. Pour moi, c'est un check-it plus.
Pareil pour moi, un check-it plus, pas un bail. Oh. On continue avec toi, Sam, qui va nous parler du Punisher Warzone numéro 3 sur 5.
Oui, toujours écrit par Greg Rucka et dessiné par Carmine Di Giando Menico. Je suis arrivé au bout. Donc, on a le Punisher qui compte...
Sam, il faut jamais lui donner des noms compliqués. Ayez des noms en un syllabe pour Sam, s'il vous plaît.
Non, là, en 8, c'est un peu dur. Donc on a le Punisher en fait qui continue à fuir à travers le monde et à buter des méchants, donc il y est. Sauf que cette fois-ci les Vengeurs envoient après lui le poids lourd, c'est-à-dire Thor. Donc on se demandait
pas du tout.
Voilà, on se demandait un peu comment il allait s'en sortir parce que franchement le Punisher contre Thor, voilà, on se disait ça va durer 2 secondes. Et en fait le Punisher applique un peu la même tactique qu'il avait employée lors du précédent épisode contre la Veuve Noire, c'est-à-dire qu'en fait il le mène sur les lieux d'un crime. Pour détourner son attention. Sauf que comme c'est Thor, ben en fait il règle le problème en 3 secondes. Voilà, il abat son marteau, tout le monde est à terre. Fin d'histoire.
Sérieux ?
Et l'intérêt de l'épisode, en fait, c'est vraiment la rencontre entre Thor et le Punisher. Et Greg Rucka mène assez bien le truc, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux guerriers d'époques différentes, mais des guerriers. Donc on a une petite discussion sympa. Le choix de Thor à la fin, moi, me laisse un peu, un peu circonspect. Je comprends pas trop pourquoi il prend cette décision, mais c'est, voilà. Mais le fil rouge, ça sera le sort de la jeune femme qui a accompagné le Punisher lors du run de Greg Rucka, puisque c'est dans cet épisode qu'a lieu son procès. Donc on a le résultat à la fin.
Bon. Traduction, je pense que c'est une grosse merde. Si ça m'est aussi peu enchanté par un truc
Non,
qu'il adore
j'ai bien
d'habitude.
aimé. Je suis un peu, voilà, il y a des parties qui me plaisent un peu moins, mais je trouve l'épisode un peu moins long que le précédent.
Notamment les parties génitales, en fait, c'est ça. Il fallait
Voilà.
bien. On n'avait pas fait de vanne sexuelle encore. C'était une
Ouais,
honte
c'est
pour
vrai,
nous,
ça
quoi.
manquait, ça manquait.
Voilà, mais c'est pas mal. Ça reste un bail pour moi, mais ça reste pas mal.
Très bien, on va continuer avec Bunny qui nous parle d'Avengers Arena numéro 3.
Oui, alors, est-ce que vous vous souvenez de Camille, cette petite fille dans l'espace qui était avec Drax, le destructeur,
Ouais.
tout au début de...
Guardians of the Galaxy.
Annihilation.
Pardon, là vous avez dit deux trucs en même temps, donc
Il
du
a dit
coup...
Annihilation.
Annihilation.
Oui, enfin oui,
Oui,
moi
c'est
je suis.
ça.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et ben, c'est Sam qui a vu juste en
Oui,
plus,
parce que moi je disais
puisque...
Guardians of the Galaxy.
Ouais,
Oui, mais c'était au
bah
début, c'est
c'était
Annihilation.
même effectivement à l'époque d'Annihilation, tout au début, donc du magazine français même Marvel Universe, pour ceux qui
Qu'on n'a
ne
plus
les auraient
revu
pas
depuis
lus.
d'ailleurs, de personnage.
Et voilà, et donc du coup, elle est dans Murder World. Alors je l'avais pas repéré au début, parce que je me souvenais plus qu'elle s'appelait Camille, je savais plus qui c'était. Et donc l'épisode est centré autour de cette jeune fille qui a été repérée par le Sword depuis, qui se retrouve là dans Murder World. Elle fait face notamment à Darkhawk dans cet épisode, qui est aussi là. Et voilà, que dire de plus? C'est pas très, très passionnant honnêtement, hein. Hormis...
Il me semble qu'elle avait pas de pouvoir, la gamine.
Là, elle est surtout douée au combat, elle a une
Moi. Ouais.
combinaison,
Bon, si elle est entraînée par Drax, c'est un peu normal qu'elle soit douée au combat.
Voilà. Mais non, c'est vraiment pas passionnant, surtout que là, je vais même pas spoiler s'il y a un mort ou pas. Est-ce qu'il y a bien un mort par épisode? C'était un petit peu
Bah,
aussi
il y en a
le
eu un
pitch.
à chaque fois dans le 1 et le 2.
Bon, là, je ne dirais pas, mais honnêtement, c'est une série qui déjà s'essouffle pour moi au troisième et je
Bah c'est vrai
pense
que
pas aller bien loin.
ça va devenir un peu répétitif, hein, s'il y a une mort à chaque fois. C'est un peu le jeu de Macracre à chaque fois, donc
Ouais, enfin là c'est surtout ça se concentre sur un personnage en particulier à chaque fois. Alors va-t-il
Ouais.
mourir, va-t-il survivre à l'épisode?
Je t'avouerai que face à Darko, qui à mon avis, elle a pas des masses de chance.
Ouais, faut voir. En tout
J'ai pas eu le
cas,
temps de le lire, mais je sais que par exemple pour Deathlokate, c'était pas mal le petit numéro qu'il a présenté.
J'avais pas trouvé ça passionnant,
Ouais,
passionnant.
enfin
Hein.
tu sais, de là à mettre à chaque fois 3 $ dans la machine ou 4, je sais plus.
Voilà,
Faut que
oui,
je
est-ce que ça vaut
vérifie.
la peine, hein?
Oui, c'est combien? Je
Trois
sais
dollars.
plus. 3 $. Mais de là à mettre 3 $ à chaque fois dans la machine, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Moi personnellement, pour moi, ça va vite s'arrêter.
Donc,
Donc voilà, un check it.
check it. On continue avec Wolverine the X-Men 23 par Sam.
Oui, donc toujours écrit par Jason Aaron et dessiné par Nick Bradshaw. Donc on a la fin de la confrontation entre les X-Men et le Circus Murder de Frankenstein, qui est sympa dans l'ensemble. Voilà, on a les X-Men qui reprennent leurs esprits, qui commencent à tout péter. Donc c'est plutôt sympa. On a une double page qui, moi, m'a bien plu de Nick Bradshaw. Donc on a des petites évolutions de certains personnages, comme ceux que Jason Aaron suit vraiment depuis le début de la série, c'est-à-dire les étudiants. Donc que ce soit Idi ou Kid Omega. Donc un épisode qui dans l'ensemble relève le niveau par rapport aux deux trois précédents, qui étaient un peu moins drôles surtout. Là, on sent que comme il peut reprendre les X-Men, voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça reste un bail. La fin ramène un personnage, ça explique une des petites intrigues qui était en cours depuis le premier épisode en fait. Voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un personnage qu'on avait envie de revoir? Voilà. Disons que pour spoiler, sans spoiler, c'est un personnage qui avait été introduit par Chuck Austen lors de son run.
Oui, run dont tout le monde se fout en fait.
Voilà, oui. Donc, je ne sais pas si Jason Aaron fait bien de ramener ce personnage.
Tête de poisson? C'est un wild guess, hein.
Non, je ne spoil pas. Faudra aller voir l'épisode. Voilà. Mais au moins, je dirais, entre le 20 et le 22, c'était un peu mitigé. Et là, ça remonte. Voilà. Le 22 remontait déjà, là, ça remonte bien. On aimerait bien qu'il remonte au niveau de ce qu'on avait eu à la fin de la première année du titre, c'est-à-dire les épisodes 16, 17, 18 qui étaient vraiment très bons.
A vu que c'est produit en avance, peut-être que c'était une époque où il était assez surchargé. Je vois que ça.
Voilà.
Donc
Disons qu'il y a
un.
deux séries, il sort deux séries cette semaine et l'une est très supérieure à l'autre.
Un bail alors?
Un bail.
On continue justement toujours avec du Jason Aaron et c'est la sortie du quatrième numéro de Thor God of Thunder.
Voilà, avec Essa Dribitsch au dessin. Alors c'est toujours très beau, c'est toujours très bien écrit, c'est sympa. Maintenant, comment résumer ça? Bah, toujours, hein, trois lignes temporelles, passé, présent, futur, avec Thor, qui est sur les traces de ce God Butcher. Bah, au fait, le truc, le gros twist de l'épisode, c'est qu'il se rend compte que le God Butcher, à la fin, ne cherche pas forcément un dieu, au fait. C'est peut-être autre chose. Et on va découvrir exactement les véritables plans du God Butcher. Bah, franchement, moi, c'est toujours un peu le même problème. C'est-à-dire, c'est sympa, voilà, c'est pas, ça me transporte pas non plus cette série. C'est-à-dire que, bah, une fois que ce sera terminé, je pense, on n'entendra pas forcément parler encore du God Butcher. Ça va pas forcément changer l'univers de Thor. Je sais pas. Pour moi,
après, la question, ça reste, est-ce que une menace ennemie doit changer l'univers ou simplement être une bonne
non,
histoire?
Mais enfin voilà, c'est pour ça que c'est voilà, c'est sympa, mais je suis pas si à chaque fois que je le lis quoi.
Contrairement à sa mémoire,
une bonne histoire de Thor, ouais.
Qui y a justement.
Oui, parce que moi j'ai beaucoup aimé hein, encore hein, ce numéro, vraiment bon, toujours très beau. J'aime beaucoup le scénario, la narration aussi, puisque là en fait on a des explications un peu sur le changement de ligne temporelle. Avec le comment, du pourquoi, avec les histoires de voyage dans le temps. C'est assez malin puisque ça a introduit toute une nouvelle mythologie en rapport avec le temps. On a le retour de ce personnage de la librairie des dieux que j'aime bien, c'était marrant cette scène. De très bonnes scènes de combat et un méchant très pervers puisque il ne recherche parfois pas vraiment la mort mais parfois la torture mentale. Donc moi j'aime bien et j'attends avec impatience la conclusion de cet arc.
Sam, toi c'était ton coup de cœur, toi, par contre.
Ouais, moi c'est mon coup de cœur de la semaine. On a toujours, comme l'a dit Benny, les trois torts, bien que ce soit un peu plus centré en fait sur le tort de l'avenir. Donc alors qu'il est roi
qui en chie,
et que
hein.
Qui en chie grave, mais le tort du passé aussi en chie pas mal puisque c'est
oui,
la rencontre
aussi.
Dans la caverne où il se fait torturer à mort.
Très bonne scène.
Pas mal du tout. Et ça Sadribic arrache mais complètement et la dernière page moi m'a foutu sur le cul.
Ah oui
parce que ça introduit un truc qui est vraiment énorme.
Oh là là là, attends, j'ai peur de ce que tu es en train de nous dire là, Sam, attention.
pas mieux le lire, j'espère.
Oh,
honnêtement,
non,
là...
non.
Non mais l'idée est vraiment très bonne, je trouve.
Honnêtement, la dernière page, je peux même la spoiler hein, puisque
non,
c'est
ah non, surtout pas.
Si parce que Sam Segour, la dernière page, t'as tort qui dit où est le boucher, c'est tout. Il y a rien.
Mais t'as pas compris pourquoi? Mais t'as pas compris où il arrive?
Non, je pense qu'il n'a pas compris, mais on en parlera hors.
Il a pas compris.
Il a pas compris où il arrive. J'ai compris, mais bon, qu'importe. Enfin, voilà. J'espère que ça aura des conséquences.
C'est pas ce qu'il dit, c'est où il arrive qui est important.
Voilà. Oui, bah, j'espère que ça aura des conséquences après cet arc. Et comme dit Kinghead, il y a peut-être ce qu'il découvre sur les différentes temporalités qui peut jouer, effectivement. Donc bon, petit bail pour moi, parce que je suis pas le
putain de gros bail.
Aussi.
Vous aurez compris ma catégorisation. Bye, gros bye, putain de gros bye. Donc moi, c'est putain de gros bye.
Vous avez tous les trois torts, c'est tout.
Non, deux, parce que moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne me prononce pas.
Bah, il va falloir que tu ailles le lire.
Oui, c'était prévu, mais pas le temps.
T'as doublement tort.
On termine la partie Marvel avec le Ultimate X-Men numéro 21, Kinghead.
Oui, écrit par Brian Wood, dessiné par Barberi. Donc ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'Ultimate X-Men et j'ai rattrapé mon retard et cet arc qui s'appelle Réservation X, je le trouve vraiment intéressant puisque il y a vraiment le statu quo qui a changé dans l'univers mutant, dans l'univers Ultimate puisque les mutants ne sont plus que 20, ceux qui sont vraiment connus des États-Unis.
Alors attention, si ça fait comme les 198 où en fait ils sont 250 000.
Ouais, mais c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte les mutants qui ont trouvé refuge dans la République de l'Est asiatique.
Et ben voilà, et ben ça commence.
Au début dans l'univers Ultimate. Mais par contre, donc ils ont fondé Utopia et c'est Kitty Pryde qui est la leader de ce groupe de jeunes mutants qui fondent leur propre nation. Ils vont avoir les droits de souveraineté sur leur nation.
Pourquoi leurs frontières sont protégées. Utopia, mais sérieusement, ils pouvaient pas prendre une idée fraîche, c'est Ultimate quoi, tout
non,
est permis.
Oui, mais c'est détourné, c'est réinventé en fait. Et donc là, il y a Iron Patriot en fait, qui est Tony Stark, qui a pris une nouvelle armure après le conflit qu'on a vu dans le Divided We Fall, qui promet à Kitty Pryde de protéger un petit peu les frontières. Et en fait, Kitty, en fait, pour la bonne volonté, pour montrer que les mutants ne veulent pas de mal aux humains qui pourtant les ont maltraités et les ont isolés justement sur cette terre-là, elle décide de leur offrir une graine qu'ils ont réussi à construire et à fabriquer, une graine qui permet de faire pousser des plantes un peu partout dans toutes les régions, même les plus arides. Et donc elle offre ça à l'humanité.
Ils ont trouvé la
Et
formule biorégénérative de Alec Holland, en fait.
ouais.
voilà un truc un peu dans le style. Et bah du coup ça fait un peu jaser les conglomérats internationaux. Donc il y a des attentats contre les mutants pour empêcher ça. C'est
Bah bon.
plutôt bien écrit. Il y a une petite mutante qui a des pouvoirs très proche de Magneto, qui a l'air de vouloir refonder une nouvelle Brotherhood of Mutants, qui est intéressante. Enfin, moi j'aime bien, franchement, c'est un bon titre, je suis content, ça remonte bien.
Bah moi je suis
Un
content
bail.
d'avoir arrêté.
Non, ouais, mais il y a
Vas-y,
juste un
Denis.
truc, ouais, juste un truc que je trouvais vraiment très peu recherché, c'est finalement tu dis Tony Stark est devenu Iron Patriot. Bah au fait non, il a juste changé d'armure quoi, c'est
Oui,
l'armure Iron Patriot, mais
mais
c'est toujours Iron Man en fait.
il se fait appeler Iron Patriot.
Mais vous
Ouais.
voyez, pile poil, c'est exactement ce que je reproche à la ligne Ultimate maintenant, c'est qu'il y a de ça 2-3 ans encore, c'était la ligne Ultimate qui influençait l'univers Marvel. Preuve en est avec le nouveau statut du Nick Fury de l'univers 616. Aujourd'hui, la ligne Ultimate est tout simplement influencée par la ligne 616. Peut-être est-ce un aveu qu'il n'y a plus vraiment de créativité et que la ligne Ultimate ne sert plus à grand-chose.
Ah, il y a des petites choses hein. Dans Ultimate, ce qui se passe en ce moment est vraiment très intéressant avec Nick Fury, justement. Voilà. À voir, à voir.
Oui, à voir, mais c'est vrai que moi je me demande quelle est l'utilité de cette ligne, vu que autant avant elle influençait, et maintenant c'est plus elle est influencée. C'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Bon.
À voir et même à lire.
Eh oui.
Donc tu l'as dit, un bail.
Un bail pour moi.
On va maintenant passer à la partie indé. On va commencer avec le dernier épisode de la mini-série Point of Impact, écrite par Jeff Herber et dessinée par Corey Curanel. Donc toujours cette mini-série très polar. Dessiné en noir et blanc, bah oui, enfin c'est surtout pas colorisé en fait, tout simplement, pour limiter les coûts, hein, je le rappelle, puisque Jeff Herber a mangé un petit revers avec Near Death qu'il a été obligé d'arrêter. C'est la fin de la mini, donc je vais pas révéler le plot de l'histoire. En tout cas, sachez que ça trouve une véritable conclusion, que c'était bien une mini, que ça n'amène pas de suite. L'histoire est résolue, l'histoire de ce meurtre d'une femme dont le mari était journaliste et dans laquelle, enfin. Dans l'histoire, justement, son appartement avait été cambriolé. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Son appartement avait été cambriolé et l'ordinateur portable de sa femme volé. Donc, justement, peut-être était-ce pour couvrir quelque chose de plus qu'une simple aventure qu'il découvre très rapidement. Bref, tout ça trouve une véritable conclusion avec des retournements de situation tout au long de la mini-série, des retournements de situation aussi par rapport à des corporations importantes. Franchement, une très bonne histoire de polar, un très très bon polar au total et au final, une bonne mini en quatre. Là, c'est le quatrième épisode. Je pense que bah, pour ceux qui n'ont pas acheté les premiers, ça sert à rien. Attendez plutôt le TPB qui sortira au mois de. Prévu au printemps, donc peut-être au mois d'avril ou au mois de mai. Faites un bon accueil à cette mini, puisque c'est vraiment une petite réussite. Un bon petit polar comme on les aime bien. On continue avec le Walking Dead numéro 106, Benny.
Ouais, Robert Kirkman est au scénario et devinez qui est au dessin.
Charlie Adlard.
Oh, c'est trop fort. Et vous lisez des comics. Alors comment parler de cette série quand personne ne la lit à part moi? Ça devient très très compliqué à
Bah, le
chaque
problème,
fois.
c'est qu'on la lit en français, tout simplement. Ou pas.
Ouais.
C'est bien, ça fait des reviews très courtes. Donc, vas-y.
Ouais. Allez, Rick essaye de récupérer auprès du grand méchant, le nouveau grand méchant de la série depuis numéro 100, quelque chose qui lui appartient et quelque
Son
chose de
chapeau?
poids.
Qui lui appartient? Qui appartient à Rick ou qui appartient à ce méchant?
Qui
Non, qui
appartient
appartient à
à
Rick.
Rick,
D'accord.
voilà, et quelque chose de poids dans sa guerre un petit peu contre ce nouvel son nouveau ce nouveau grand ennemi. Et voilà. Alors on voit quelques scènes avec encore des survivants du groupe de Rick qui se posent toujours des questions un petit peu sur son comportement récent puisqu'il a encore un petit peu changé. Il n'a pas tout dit au fait à ses camarades de ses plans. Et donc voilà, ça fait poser des questions. Très bon épisode qui se termine sur un suspense où tu te dis oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, vivement la suite. Et bah il faudra encore attendre un mois, voilà, c'est toujours la torture avec Walking Dead.
D'où le
Donc
fait de les
un
lire en TPP.
Ouais. Et par contre, un bail, meilleur épisode que les précédents que j'avais trouvé un peu trop gratuit, un peu trop violent. Celui-là revient à la bonne vieille méthode du Robert Kirkman, attrayant mais sans faire dans le trash, quoi.
Ben justement, tu vas garder la main maintenant avec le Savage Dragon numéro 184 qui terminera notre partie Image.
Ouais. Alors Eric Larson au scénario et dessin, hein, comme d'habitude, c'est son bébé depuis maintenant le début des années 90. Donc Savage Dragon qui au fait là est jugé par la Terre pour au fait parce que bon pour résumer grosso modo il a un peu pété les plombs, il est revenu à ses origines. Donc à la base c'est un dictateur conquérant qui était là pour conquérir la Terre et du coup. Et du coup, voilà, il a un petit peu déconné dernièrement, et un petit peu comme dans
Juste un peu.
Invincible, voilà, juste un tout petit peu, un chouïa, et comme dans Invincible, son fils, parce que oui, il a un fils maintenant, et même une fille, bah, ses enfants ont lutté contre lui, et ont essayé de le renverser, et de lui faire entendre raison, et bah, il est revenu dans le clan des gentils, hein, il est redevenu le dragon qu'on aime bien, le dragon sympa. Le seul problème, c'est que maintenant, il doit faire face au jugement des humains et il l'accepte. Et du coup, voilà, commence le jugement du dragon, le procès du dragon. On va avoir le résultat bah, très vite et on se doute qu'il ne sera pas très bon, qu'on va pas lui pardonner comme ça. Et il y a aussi un ennemi un ennemi classique qui revient. Alors pas un ennemi vraiment du dragon, mais un ennemi vraiment le plus grand méchant, le plus vieux méchant des comics, quoi. Enfin, l'un des plus vieux méchants des comics. Réintroduit par Eric Larson, il s'en était déjà servi dans un numéro, dans un projet spécial. Au fait, quand il. Parce qu'Eric Larson fait quelquefois des séries sur lesquelles, au fait, il fait des suites de séries interrompues. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il reprend un titre qui n'existe plus et il fait la suite comme si c'était un nouveau numéro de cette série en question. Et donc,
Généralement
il avait
tombé dans le
un.
domaine public. Hein.
Voilà. Et donc, ce personnage-là est un grand méchant tombé dans le domaine public. Je vais pas révéler qui c'est, on peut le deviner si on connaît l'histoire des comics. Voilà. Et il fait son apparition à la fin de l'épisode et j'ai hâte quand même de lire la suite. C'est toujours une série sympathique. Voilà, je vous
Sérieux?
encourage à prendre des TPB Savage Dragon.
Je confirme.
On va terminer la partie 1D avec une autre grosse sortie de cette semaine. C'est la sortie du premier numéro d'une nouvelle série régulière, Star Wars, Kinghead.
Oui, écrite par Brian Wood et dessinée par Carlos Danda. Donc c'est une série qui va se passer entre l'épisode 4 et l'épisode 5, donc après la destruction de la première étoile noire.
Ah bon, il y a eu un épisode 1 à 3? Je savais pas.
Honnêtement, je ne sais pas si toute la série va se passer entre l'épisode 4 et 5, en fait.
Bah alors, je ne sais pas si toute la série se passera là,
Mais
mais pour
pourquoi vous
l'instant, en
parlez
tout cas,
d'épisode
ce
4 et
premier
5? Je ne comprends pas.
arc. Mais ils se sont toujours appelés comme ça, hein, tu sais, Sam.
Mais c'est
Non,
le
non,
premier
pas à leur
numéro.
sortie.
Mais pourtant, dès le générique, tu voyais bien
Ouais.
marqué épisode 4.
Et donc en fait, la rébellion a eu une petite victoire, mais ils n'ont toujours pas réussi à renverser l'Empire. Donc ils cherchent désespérément, par contre, un nouvel endroit où s'installer, puisque bah, Alderaan avait été détruite. On a Luke aussi qui est. Oui, c'est ça qui est important à signaler, c'est que cette série va s'intéresser aux personnages vraiment majeurs de la saga, à savoir Luke, Leia, Yann, Chewbacca, Dark Vador. Des personnages qui normalement étaient vraiment très peu utilisés dans les comics Star Wars actuellement.
Ouais, et puis tu
Et
vas t'arrêter tout de suite parce que t'as dit Yann, donc ça va pas le faire.
oui, exactement. Oh, j'allais dire la même chose. C'est Han
Han Solo,
Solo, pas Yann Solo.
Han Solo,
Oh, Han Batey va.
Han
Et on dit
Solo.
Darth
Han Solo.
Vader et non pas Dark Vador.
Oui, mais je l'ai
Darth
dit à la
Vader.
française. Je l'ai dit à la française. Et donc voilà. Bah après, j'ai trouvé que c'était un petit peu lent. Par contre, c'est vraiment très bien
C'est du
dessiné.
Brian Wood.
Carlos Danda nous fait de très belles planches. Ça me plaît bien, son style. Ça va bien. Et bon, voilà, c'est une introduction un petit peu à ce nouvel univers. Bon, la question
Ce
qui
nouvel
monte se
univers.
pose.
Non, mais
La
pour les
question.
gens qui ne seraient pas rentrés, c'est vrai que c'est un très bon point d'entrée pour les gens
Oh,
qui
je
ont
t'en
vu.
prie, c'est le truc le plus connu de l'univers. Même
Non, non,
moi
non,
qui
non,
n'ai
non,
pas vu
non.
les films très souvent,
Attends,
tout,
attends,
je les
attends.
connais.
Je parle simplement des gens qui ont envie de se mettre aux comics. C'est
Oh, il
un
va t'en
très beau
foutre
point
une,
d'entrée
là. Ah
parce
oui, mais
que.
là, non, mais là, Kinghead dit que ça s'intéresse uniquement aux personnages les plus importants.
Ouais, mais tu vois, les gens qui n'ont vu par exemple que la trilogie originale, s'ils n'ont pas lu du tout de comics, ils seront contents de se mettre là-dedans parce
Bah,
qu'ils vont
quiconque ne
retrouver
connaît
quelque
pas
chose qu'ils
l'univers
connaissent un
étendu,
petit
en
peu.
fait. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui ne regardent pas Clone Wars, il y a des gens qui n'ont jamais lu de romans, qui n'ont jamais lu de comics dérivés de l'univers
Bah,
Star
comme
Wars.
moi.
Et voilà, pour moi, c'est mon cas.
Bon, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Brian Wood va nous expliquer si Luke et Leia ont couché ensemble
Voilà,
entre
oui,
l'épisode 4
c'est ce
et
que j'allais
l'épisode 5?
demander.
C'est surtout ça qu'on veut savoir.
Ben, moi, pour ma part, je serais moins enthousiaste que toi. Je l'ai lu, je me suis dit, ben justement, ça me peut permettre de rentrer dans cet univers étendu, peut-être par une plus petite porte, et me donner envie de m'intéresser au reste. Ben, franchement, j'ai pas été super séduit, quoi. Alors, les dessins sont très très bien, il n'y a pas de problème, c'est très dynamique, c'est très agréable à regarder. Maintenant, c'est au niveau de l'histoire, quoi. Cette espèce de côté, attention, il y a un traître dans la rébellion. Ben, tu le vois venir dès la page 3. Voilà, enfin, honnêtement, je me suis vraiment ennuyé à la lecture de ce premier épisode. Donc, franchement, j'irai peut-être voir le 2 parce que la fin de l'épisode 1 te donne quand même un petit peu envie d'aller voir, mais je suis pas sûr de rester très longtemps, quoi. Je pense qu'en fait, l'univers Star Wars ne doit pas être fait pour moi, peut-être, tout simplement.
En tout cas, très belle couverture d'Alex Ross. Et à noter que pour 3$, on a la version digitale offerte aussi. Ce qui est pas mal parce que chez Marvel, ils rajoutent 1$ en général au prix.
Bon, pour moi, c'est un check-it, quoi.
Bon, pour moi aussi, c'est un check-it plus.
Ok, on va continuer maintenant en passant à DC avec la sortie du Animal Man numéro 16, toujours dans ce fameux crossover Outworld. Benny.
Ouais, Jeff Lemire est au scénario et donc au dessin nous avons à la fois du Steve Pugh et puis du Timothy Green 2
Ah
pour
non, pas
notre
lui.
ami. Et si, il est là, il est de retour et il est en forme.
Bah,
Et
il est là
alors,
depuis
c'est...
le début de l'arc, en fait, hein, tout
Bah oui,
simplement.
je sais. Ouais.
Oui, et je crois d'ailleurs... Ah, c'est peut-être... Ah, je sais pas, remarque. J'allais dire, il fait les parties avec le Green Lantern. Timothy Green 2, enfin voilà, Green Lantern, tout ça.
Ouh,
Mais
c'était beau ça.
je suis pas
Non,
sûr, en
Timothy
fait.
Green 2 fait les parties dans le
Dans le
présent, enfin,
présent.
ouais. Enfin, dans le
Et
présent,
oui.
dans le passé, du coup, pour Animal Man. Bon, si vous avez pas lu, c'est vrai que ça va devenir compliqué là.
Ouais, alors donc, on s'était quitté sur la découverte de ce Green Lantern particulier que l'on ne connaît pas. Et au fait, là, il nous raconte ses origines et on se rend compte déjà que les gardiens, au fait, du Rotworld sont un petit, enfin, du Rotworld. Les gardiens dans la dimension, au fait, du Rotworld sont un petit peu moins, ont un peu moins perdu la tête que dans ce qui se passe actuellement dans les séries Green Lantern. Donc, ils ont envoyé un Green Lantern un peu spécial qui pourrait être le Salvateur dans ce type de situation. Jeff Lemire nous réintroduit aussi une menace qu'on avait vue dans Justice League Dark.
Ouais, il réutilise
Voilà,
le même personnage.
voilà, il l'utilise. Bah, en même temps, c'est
Mais c'est
logique
non,
parce
c'est très bien,
que
c'est
voilà,
très bien.
oui, voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé ce passage. De son côté, il y a la fille de, alors je sais même plus comment il s'appelle,
De
d'Animal Man, je vais dire,
Buddy
mais
Baker.
Buddy Baker, voilà, qui lutte contre le Rot qui prend une décision assez radicale. Évidemment, je ne vais pas dire quoi. Et bah voilà, bah, beaucoup de choses, hein. Un épisode très ample, avec un final quand même assez drôle. J'ai hâte toujours de découvrir bah, c'est la conclusion, hein, le prochain coup. Donc voilà, bah que dire de plus? Je sais pas, je vous laisse la parole, beaucoup de rebondissements.
Sa main.
Oui, un épisode sympa. On voit quand même l'émir qui joue avec beaucoup d'éléments en fait de l'univers DC qui sont bah, extérieurs en fait à Animal Man. Donc Buddy a dit Green Lantern. Il reprend effectivement des éléments de la Justice League Dark. Donc c'est plutôt bien de le voir en fait aller vers vraiment l'univers étendu de DC et pas seulement rester confiné, je dirais un peu dans son coin.
Ouais, j'ai quand même un peu l'impression qu'il nous fait le Lemire World, quoi.
Ouais.
Moi, ça me dérange pas,
Et
hein, ce
puis
qu'il fait
il
est
fait
très bien.
quelques non mais il y a peut-être quelques petites touches du côté de Snyder puisqu'en fait on voit à un moment l'un des gars du Rotworld qu'en fait qui talonne, tu vois. Ça dure deux cases mais c'est plutôt marrant.
Ah, j'ai pas remarqué,
Si, c'est
tiens,
Talonne.
d'ailleurs. Ah oui, d'accord.
Donc je pense que c'est une petite touche vers Snyder donc c'est plutôt sympathique.
Mais ouais, enfin,
Puis voilà, et puis les
franchement.
gardiens qui ne sont pas des enfoirés dans ce passage. C'est ce qui m'a
Oui, ça m'a étonné.
C'est surtout qu'il n'a pas pris en compte ce qui se passait
Voilà, oui.
dans Green Lantern.
Oui, mais
Mais
le
en
problème,
même
c'est que ça fait un
temps,
moment que ce sont des
a-t-il
enfoirés.
tort de ne pas le faire?
Mais bah, déjà, les auteurs de Green Lantern ne le font pas, donc il aurait tort aussi.
Tu l'as lu aussi, King Ed?
Non, pas du tout.
Bah, je croyais. Bon, bah, pardon. Autant pour
J'ai
moi. Bah,
t'as
vu
tort,
juste
c'est
les
très bien.
précédents, mais j'ai pas eu le temps de lire les épisodes de cette semaine.
C'est ce qu'on appelle un raté.
Voilà.
Non, bah, oui, très très bon épisode, encore une fois. Peut-être un petit peu plus mou, ou alors était-ce peut-être parce que le Swamp Thing de ce mois-ci était meilleur que les précédents, c'est pour ça
Bah,
que.
je crois surtout que c'est parce qu'il avait beaucoup d'éléments à mettre en place dans cet épisode. Donc du coup, il y a beaucoup d'exposition et un peu moins d'action. Mais il y en a quand même.
Mais ouais, mais ça reste un très bon titre avec tout tas de personnages et c'est toujours aussi l'intérêt de Animal Man. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un gros bail, hein, cette série, comme d'habitude.
Mm-hmm. Comme d'hab, ouais, pareil. Pareil.
Hâte de lire le prochain pour découvrir la fin de ce crossover. Justement, on va continuer avec l'autre partie, sortie ce mois-ci aussi, la partie Swamp Thing, scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Yannick Paquette, où notre cher ami Swampy va se retrouver face au château de Anton Arcane, face à un Superman complètement plein de rotte partout dans le corps. Et puis finalement un gros flashback de quelques jours auparavant, puisqu'on va reprendre là où on en était à Gotham, face à cette espèce de Batgirl.
Non, c'est Barbara Gordon.
Oui, bah c'est Girl Bat, je sais pas comment l'appeler. Du coup.
C'est, moi je dirais c'est voilà. Plus Oracle qu'autre chose, quoi.
Et on va découvrir comment une partie de Gotham a survécu bien cachée dans un endroit classique
grâce à Batman.
De Gotham, grâce à Batman, effectivement.
On peut pas du tout deviner. À Gotham, il y a deux endroits. C'est simple, il y a le manoir de Bruce Wayne et puis un autre que voilà.
Ouais, mais tu vois, bêtement.
Ouais, mais l'idée est pas mauvaise.
Quand
je l'ai
lu, j'ai pas cherché à réfléchir. J'ai tourné les pages et je me suis dit ah bah oui, c'était évident et pourtant.
C'est logique. Hein.
Et bah voilà, bon, on voit que Batman.
Disons que c'est un endroit très sécurisé.
Ouais. Bah, y en a deux possibles, disons. On voit que Batman avait commencé à travailler sur la même formule qu'avait développée Alec Holland dans son petit coin et un moyen peut-être de sauver la Terre, quoi, tout simplement, du Rot. Voilà, c'est très sympa. Et...
Dans le même temps, on a la fin de la confrontation Abigail Arcane, Anton Arcane.
Et oui, on a ça surtout.
Et c'est vraiment la fin.
Cette fin qui m'a fait rigoler tellement c'était bien, quoi. Enfin voilà, j'ai rigolé de joie parce que j'ai tellement hâte de voir la suite, voir comment ça va pouvoir se conclure. Voilà, vraiment très très bon épisode, je trouve.
Est-ce que vous y avez cru quand même à cette fin? Parce que.
Bah, le problème, c'est qu'on sait déjà que tout l'univers Rotworld sera, on va dire. Remis à zéro en fait à la fin, puisque comme tout l'univers DC est mort, c'est un petit peu dur ensuite de dire ah bah c'est le nouveau statu quo, tout le monde est mort. Voilà, donc la question c'est comment ils vont faire.
Ouais.
Parce que si c'est juste morts, ah ben il y a un trou noir, allez on revient dans le passé et puis c'est bon, voilà.
Ouais, est-ce que certains morts aussi resteront morts?
Voilà,
c'est la
oui.
grande question. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Green Lantern agissent différemment, parce qu'on est complètement dans une autre ligne temporelle quand même.
Ouais, une autre réalité, ouais.
Bah, ouais. Ça dépend à partir de quand ils avaient envoyé ce Green Lantern, quoi. Mais techniquement, si toutes les choses se passent à peu près en même temps, ils devraient déjà avoir commencé à envoyer.
Bah, il dit que ça faisait des mois qu'il était là.
Bah oui, mais voilà, bon, enfin, on va voir. On verra ensuite.
Dans le même temps, en fait. Hein.
Mais il le zappera peut-être, et c'est peut-être pas de mauvaise idée, parce que pour le moment, excuse-moi, la Third Army.
En même temps, Steve, tous les Green Lantern sont morts dans cet univers. Donc les gardiens,
non.
Si tu veux, le Rotworld a fait leur travail.
Ouais, mais pourquoi ils enverraient un Green Lantern et non pas un mec de la Third Army, tu vois? Enfin, bon, on va pas partir sur des débats comme ça.
Non, mais juste parce qu'il a les pouvoirs adéquats pour régler la situation et que ça les arrange bien.
Je crois qu'ils ont surtout, ouais, voilà, ils ont profité de bloquer la Terre avec un bouclier de manière à ce que plus personne ne s'en échappe et comme ça ils sont contents puisque c'est la Terre qui leur pose tous les problèmes à chaque fois.
Exactement.
Petit rappel à Final Crisis.
Bref, en tout cas, un très bon épisode de Swamp Thing, un peu moins mou que les précédents, je trouve, où il se passe pas mal de choses.
Je veux juste noter, par contre, les dessins de Paquette sont sublimes.
Oui, ça arrache.
C'est le plus beau numéro, je trouve.
Et surtout, il y a une très bonne utilisation de toute la Bat Family, que ce soit méchant ou gentil, ou avec des petits artifices, notamment le petit artifice qu'utilise Swamp Thing vers la fin, que j'ai trouvé génial.
Ah oui, alors drôle. Attends, j'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est peut-être une idée du scénariste que ce soit lié au fait à tout ce qui est végétal, ce truc? Parce que j'ai l'impression qu'il a vu ça dans Batman et Robin, et que c'est pas le cas dans la continuité réelle.
Alors déjà, on arrête de mentionner Batman et Robin comme une référence.
Ah oui,
on essaie quand même tous de l'effacer de notre mémoire, ce film.
Oui, mais moi justement, ça m'a rappelé ça grandement, je me suis dit ah bon.
Non, je pense que je fais un blocage mental, c'est pour ça.
Peut-être un petit clin d'œil. On sait que Snyder est quand même friand de faire des petits clins d'œil au film Batman. Hein. Ce sera pas
la
première
fois. À ma dernière, je sais pas. Moi, pour moi, ça n'avait aucun rapport normalement. Mais bon, je peux me tromper.
Enfin, en tout cas, franchement, un gros bail encore pour cet épisode, encore plus que les précédents, je trouve. Cet épisode de Swamp Thing, et comme je le disais tout à l'heure, tout ça va culminer vers un épisode final pour le Rotworld qui, à mon avis, vont être les deux vraiment énormes. Sam et Benny, bail aussi.
Je plus crois.
Oui. Ouais, bye. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça avançait. D'habitude, ils nous refait un petit peu la même chose.
Donc, bye. Ok.
Donc bye, ouais.
On continue avec la Bat Family, justement, et la sortie du 16e numéro de Detective Comics, Benny.
Ouais, John Heyman au scénario, Jason Fabok au dessin. Alors Jason Fabok, merci Jason Fabok d'être sur Batman, parce que honnêtement, ça tue, et c'est de mieux en mieux. Niveau scénario, par contre, alors John Heyman là prend un petit peu Death of the Family à contre-pied, c'est-à-dire qu'au lieu de nous faire encore une fois le Joker face à l'un des Robin ou face à Batman, on voit pas du tout le Joker en fait. Batman affronte des gangs qui s'inspirent du Joker. Donc le Joker a encore réussi à créer le chaos dans Gotham, et puis c'est le bordel partout, et puis bon, il y a des gros psychopathes qui s'inspirent de lui, qui sont un peu partout, et l'histoire est pas bien passionnante au fait, l'histoire principale. Alors oui, ça introduit un nouvel ennemi, par contre, le Merrymaker, qui a l'air prometteur, en tout cas qui a une bonne gueule, je trouve. J'ai été plus intéressé finalement par le petit backup sur l'empereur Pagouin.
Oui. Que c'est alors déjà, il faut qu'il change personnage. De nom.
Oui, oui, non, mais parce que son vrai
chaque
nom,
fois
c'est
que tu le dis, quand même, moi, ça me fait marrer.
Ogilvy ou je sais pas quoi, là, son ouais, vrai c'est... nom, je sais plus. Enfin bon, bref, il a un nom à coucher dehors. Donc là, on voit, au fait, il s'adresse à toute une galerie de super-vilains de Gotham. Alors, ils ont tous des têtes super drôles. J'ai trouvé que c'était assez marrant.
Bah, il reprend, en fait, les personnages que Tony Daniel avait introduits.
Ah, c'est les mêmes ?
Oui, c'est les méchants que Tony Daniel avait introduits.
Ah bon? Parce que ouais. Putain, j'en ai reconnu aucun. Ou bien alors, j'ai vraiment été tellement peu passionné par ce qu'il a fait Tony Daniel. Ok, d'accord. Bah alors, c'est bien. Bah alors, en plus, John Heyman utilise le travail des autres auteurs avant lui, ce qui est un plus. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que, au fait, le plan de cet empereur pingouin, putain, j'arrive même pas à le dire, c'est de faire porter, au fait, tous ces meurtres sur le dos du Joker, puisque le Joker est en train de... Voilà. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il fait un faux sourire de Joker à quelqu'un, mais comme par hasard, c'est la seule personne dans la pièce à qui il peut faire ça. Enfin, je sais pas, vous comprendrez en voyant la scène en question, puisqu'ils ont tous une tête à qui ça n'irait pas. Donc voilà.
Mais disons qu'il faut avoir une mâchoire pour pouvoir enfin avoir ce sourire-là.
Donc je trouvais ça sympa, mais effectivement l'histoire principale là, je pense que c'est surtout parce qu'il avait besoin de faire un, on lui a demandé de faire un.
Oui, c'est du feeling en fait, hein, vraiment.
Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, c'est pas ce qu'il y a de
mieux. Ça sera oublié dans quelques mois.
Bah, en même temps, vu qu'il est arrivé il y a pas si longtemps que ça, a-t-il vraiment été inclus dans la préparation du crossover? Du coup, il s'en fout peut-être un petit peu, quoi.
Oui. Ouais, je pense qu'il s'en fout. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai eu à la lecture. Hein.
Que du coup, ça contrecarre un petit peu ses plans par rapport à ce qu'il avait prévu de faire et que ses histoires à lui prennent un peu de retard. Bon, ce sera pas la première fois que quelqu'un ne s'occupe pas vraiment d'un crossover, n'est-ce pas, Green Lantern? Oui, je sais, je le redis encore.
Ouais. Mais enfin, mais en tout cas, voilà, il se rattrape un peu sur le backup, sur ce qu'il a mis en place. Bon, ça reste sympa. Alors là, ce sera juste un check-it pour moi, puisque on peut zapper, hein, je pense, cet épisode. Et puis le suivant aussi, puisque je crois que c'est encore un tie-in.
Sam?
Check-it.
Check-it. On passe au coup de cœur, une fois encore, de King Ed, toujours le même tous les mois. C'est le Action Comics numéro 16.
Oui, tout à fait. Grant Morrison au scénario. Et au dessin, on a Rax Morales et Brad Walker. Brad Walker qui nous fait de très très jolies planches. Franchement, j'aime beaucoup son style. On arrive vers la fin là parce que ça se termine dans le numéro 17, le run de Morrison.
On va pouvoir relire du Action Comics. Non, je plaisante.
arrêtez.
Bah non, c'est
vrai, hein. C'est vrai. Parce que moi j'ai arrêté.
C'est le point culminant de cette histoire. On a la lutte de Superman.
Qui est pas intéressante.
Ça suffit.
Laisse raconter King Ed, c'est son coup de cœur. Il met tellement d'enthousiasme. Après, tu pourras descendre le truc si tu veux.
Allez, raconte.
C'est vraiment passionnant. Il y a toujours cette lutte entre Superman et ce méchant qui vient de la cinquième dimension, qui avait décidé de détruire la vie de Superman. Il le combat dans toutes les époques, un petit peu du présent, du passé, du futur, dans d'autres dimensions aussi, puisqu'il allait recruter aussi des méchants dans d'autres dimensions et dans d'autres univers parallèles. Là, on a Clark qui se bat contre le Docteur Xadu. On apprend pas mal de choses sur la continuité de Superman, puisque on a la confirmation que Superman était bel et bien mort et que Doomsday l'avait tué et qu'il était revenu à la vie, donc comme avant les New 52. On a des références justement à cet événement. On a un gros lien avec le numéro qu'on avait eu qui nous parlait du Superman de la Terre, je sais plus combien, qui était noir et puis qui combattait un méga Superman. Donc bon, il raccroche vraiment tous les morceaux du puzzle. C'est toujours aussi passionnant et il y a la Légion qui est réintroduite dedans, qu'on avait déjà vu aussi précédemment. Il réussit à m'intéresser sur des personnages de la Légion, même à travers aussi le backup qui lui est scénarisé par Shelly Fish et dessiné par Cully Hamner, par Chris Proust, pardon. C'est moi le numéro, je me suis régalé, j'adore toujours autant, et ça se termine avec un bon gros suspense. Il me tarde de lire le numéro Oversize numéro 17.
Sam,
franchement, c'est énorme.
Pas particulièrement mauvais, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture, mais c'est très loin d'être le meilleur de Morrison. Il a écrit de bien, bien, bien meilleur qu'avant. On sent que le mec est carbonisé, quoi.
On le sait, le mec est lassé.
Voilà, oui, ça se sent à l'écriture. On sent que vraiment il
Moi,
revient.
Je le trouve pas carbonisé en lisant ça. Enfin, franchement, il y a.
Ben, parce que t'as pas lu assez de Morrison. C'est pas
si,
son niveau.
J'ai lu beaucoup de Morrison.
Je peux te dire, moi j'en ai lu un paquet et.
On va pas comparer ça, mais je veux dire, au niveau d'une histoire de Superman, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas du Superman classique, quoi.
Bof. Bon, vraiment,
moi je trouve ça, et franchement, j'ai préféré ça à All Star Superman.
Bon, bah tu sors.
Non,
mais tu sors, tu reviens pas et tu chroniques plus jamais.
Mieux, mais ce run qu'il a fait sur Action Comics, ça m'a beaucoup plus plu que.
Moi ça m'a jamais emballé All Star Superman, hein, je peux le dire maintenant. Mais...
Bah parce que t'aimes pas Superman, c'est tout. Voilà, non mais attends. Soyons clairs, All Star Superman c'est juste la quintessence du personnage. Donc si tu n'aimes pas cette maxi, t'aimes pas Superman, c'est tout.
Mais pour moi, c'est pas le numéro mythique, enfin l'histoire mythique de Superman. Ça m'a beaucoup plus plu, j'ai trouvé ça plus intéressant.
Tu parles. Mais le truc, c'est qu'il compense vraiment le fait que il en a marre, hein, vraiment là de ce qu'il fait, par des techniques narratives un peu pour susciter en fait la confusion du lecteur, pour lui faire croire qu'il y a beaucoup de choses, alors qu'en fait c'est une histoire basique.
Ah,
voilà.
Donc tu es en train de dire que Grant Morrison est un escroc ?
Non, sur cette série-là, oui. Là, il se fout de la
Mais c'est toujours
un peu de la
ce qu'il fait. Sam, il vient exactement de traduire
non,
tout ce
parce
qu'il
qu'en
a fait
général,
sur toutes
a...
les autres séries pour
il
moi.
Il y a de la substance dans ce qu'il fait d'habitude.
Faire semblant de faire du difficile, alors qu'en fait, c'est super
non, parce
simple
que
et qu'il n'y a rien à
dans
comprendre.
Toutes ces séries précédentes, il y avait toujours de la substance derrière. On sentait le mec, il maîtrisait autant le personnage que l'univers. Là, c'est juste le scénariste qui veut que ça se finisse. Voilà. Et qui expédie ses épisodes et ses pages parce qu'il en a marre.
Et bah tu sais quoi,
je le comprends ça. Non mais
ça
fait quoi, 7 ans qu'il bosse pour DC? Je comprends qu'il en ait un peu marre. Bon. Mais je le sentais déjà moi sur le premier arc qui était à nouveau les origines de Superman. Il a fait un bon épisode, un ou deux bons épisodes. Mais franchement, ça volait pas haut quoi.
C'est dommage.
Oui, pour du Superman, c'est dommage, mais surtout,
ah bah,
il ne faisait pas vraiment quoi que ce soit de vraiment original. Voilà, il recrachait un peu ce que les précédents avaient fait, il condensait un peu, mais il allait pas plus loin. Il fait pareil avec cette histoire sur la cinquième dimension, que franchement, il aurait pu condenser en beaucoup plus court.
Par contre, moi, je te trouve dur, Kinghead, quand tu dis que qu'il arrive enfin à t'intéresser à des personnages de la Légion. Alors, soit tu ne les as pas lus, ceux écrits par Geoff Johns.
Non, oui, par contre, c'est vrai que. Non, je compare par rapport
à ceux des New 52.
À ceux des New 52, auxquels j'avais essayé de m'y mettre. Et j'avais pas trouvé ça passionnant.
Non, mais c'est bon, j'ai la réponse. D'accord. Ok. Voilà, c'est tout.
Mais a priori, ils font revenir un méchant très important de la Légion à la fin, dans le backup, que je connaissais pas trop, mais ça avait l'air pas mal.
Donc, Sam, pour toi, un check-it ou un pass?
Check-it.
Et Kinghead, un gros bail puisque c'est ton coup de cœur de la semaine. Voilà. Justement, Sam, on va passer à toi pour terminer la partie d'essai avec la sortie du Earth 2 numéro 8.
Alors ça va aller très très vite parce que James Robinson s'est pas foulé sur cet épisode là.
Oh comment je vais te frapper, je vais te fracasser à coups de baramine.
Bah t'as pas lu l'épisode parce qu'en gros.
Si.
Non, t'as pas lu l'épisode, tu m'as dit que tu l'avais pas lu.
Ah, Earth 2, si je l'ai lu, bah bien sûr que si.
Ah, il se passe un truc dans l'épisode. Un truc, c'est Steppendorfer. Attends, comment c'est son nom déjà? Steppenwolf. Steppenwolf, donc qui est un survivant de l'invasion d'Apocalypse sur Terre. Donc il prend le contrôle d'un pays. Fin.
Oui, bah il prend pas le contrôle de n'importe quel pays, rappelle-toi.
Oui, mais on s'en fout du pays en question.
Non, mais c'est bien, James Robinson remet ce pays-là, la Marcovie.
Pff, qu'est-ce qu'on a à foutre?
Bah,
Voilà. Non, mais l'intérêt de l'épisode, c'est que grosso modo, il introduit un personnage qui est, bon, qui est sur la couverture, donc on peut le dire. C'est. Attends, comment il l'appelle parce que j'ai pas envie de spoiler. Non, mais c'est The Fury of Steppenwolf.
Oui, bah les Furies de Darkseid.
Voilà, oui. Bon. Et c'est l'origine du personnage qui la rend un peu spéciale. Mais sinon, cet épisode, il n'y a rien.
Oh là, comment je suis pas d'accord. Est-ce que tu l'as lu, Kingen?
Non, je l'ai juste feuilleté.
Ah oui, tu l'as pas lu. Je suis seul à pouvoir défendre cet épisode.
J'ai lu la preview et la preview m'avait vachement captivé. Donc,
Moi, je l'ai feuilleté et ça me donne pas envie de spécialement le lire, et puis ce que vient d'en dire Sam, c'est vrai que ça m'intéresse pas forcément.
Non, mais attends,
le sujet,
attends. Sam, tu sais très bien qu'il a pas les mêmes goûts que toi, donc.
Oui, mais sur Hearthstone, il a plus les mêmes goûts que moi que toi, parce que moi, Hearthstone, je suis assez mitigé. J'avais adoré le début, et puis voilà.
C'est donc tout seul que je vais finir cette émission. Non, franchement, l'épisode est vraiment très bon. En fait, on a un épisode qui est beaucoup plus politique. On a exactement ce qu'a fait déjà James Robinson sur des séries comme Starman, avec un épisode qui, en apparence, présente totalement autre chose, puisqu'on ne voit une fois encore pas du tout l'équipe. Est-elle vraiment une équipe pour le moment, la JSA?
Pas vraiment.
Voilà.
Oui, justement. C'est-à-dire que moi, j'étais surpris qu'ils composent pas l'équipe à la fin de l'épisode 6. Donc, c'était une bonne surprise parce que pour une fois, on n'avait pas le truc habituel. De la formation d'équipe. Ah, la grosse menace, ça y est, on est formé, on est une bonne équipe. Donc, ça, déjà, c'était une bonne surprise. Mais je me suis dit, quand même, il va essayer de les faire interagir dans les épisodes suivants. Et dès l'épisode 8, on les voit pas.
Non, en fait, là, il nous place simplement des pièces politiques sur l'échiquier de cette Terre 2. Ce qu'il faut penser, et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que James Robinson est tout seul pour développer toute la Terre.
Oui, donc il évite de nous faire des épisodes qui tiennent, franchement, il aurait pu faire ça en 10 pages.
Mais non, il aurait pas pu faire ça en 10 pages.
Si, putain, si.
Mais non, carrément pas. Mais je veux dire, tu perds vraiment toute l'intensité dramatique de la chose si tu fais.
Intensité dramatique. C'est juste Steppenwolf et sa furie qui massacrent tout le monde.
Steppenwolf, c'était quand même le leader de l'invasion d'Apocalypse sur Terre 2. C'est quand même le général de Darkseid qui était donc resté sur cette terre.
C'est celui qui a embroché Wonder Woman.
Moi, je suis d'accord avec Sam sur un point, c'est-à-dire qu'il aurait pu à la rigueur continuer son histoire et mettre ça dans des backups.
Voilà, oui, mais moi c'est ce que je me
pendant deux numéros.
C'est exactement ce que je me disais, il aurait pu faire ça dans
Attendez, on va pas parler tous en même temps, c'est pas possible. Il peut pas mettre des backups, c'est une série de 20 pages à 2,99$. Il va pas changer la pagination.
Non, mais.
Il va faire passer à 3,99$, c'est pas possible.
Comme Detective Comics.
Non, mais même sans faire des backups en extra. Il n'y a pas besoin de faire des backups en extra. C'est une storyline qu'il aurait pu lancer en parallèle du reste. C'est tout. Il faisait deux pages par épisode et c'était bon.
Justement, Steve, en mettant les personnages de la JSA en plus dans l'épisode, en mettant ça dans un backup. Tu vendais plus que en mettant juste l'histoire de ce personnage-là dans un numéro complet. Parce que là, les gens vont skipper ce numéro.
Ça serait con parce que c'est quand même le méchant de l'univers Earth 2 qui est présenté. Enfin, je veux dire,
oui, mais ça,
ça parle
là,
ça n'intéresse pas.
Le méchant de l'univers DC. Si c'est ça, le méga méchant de l'univers DC, ça va pas aller loin.
Oh, mais tu rigoles ou pas? Enfin, je sais pas, mais à mon avis, ouais, je pense que t'as dû lire l'épisode trop vite, quoi.
Ah non, non, bah attends, déjà, l'épisode trop vite, il n'y avait pas grand chose à lire, donc effectivement, je l'ai lu en 5 minutes. Parce que franchement, ça va très très vite à la lecture.
Je te trouve vraiment Wolf, mauvaise foi non, mais... parce que t'aimes pas James Robinson, c'est tout.
Ah non, mais attends, j'ai beaucoup aimé les épisodes précédents de Hearthstone, mais là, il va vraiment trop lentement. Il faut qu'il se bouge un peu le cul. Si c'est pour sortir des épisodes où il y a un truc et c'est tout qui se passe, où les héros n'apparaissent même pas, c'est du foutage de gueule.
Une caractérisation, la James Robinson, il prend son temps, ça a toujours été le cas. Alors, quand il prenait pas son temps et qu'il faisait vraiment d'autres choses, on le descendait sur la Justice League parce qu'il fallait qu'il place absolument la
Justice
League.
Alors, les
Justice League,
je les ai pas lus, donc je peux pas le descendre là-dessus.
Et maintenant qu'il prend son temps, qu'il revient à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mettre en place des choses, créer une atmosphère, créer une ambiance et bouger des. Parce que quand on reprend l'épisode 7 où on avait cette menace, qui était dans l'armée du monde, plus celle-ci, on voit qu'il y a deux grosses menaces en présence. Enfin, voilà, il nous a placé les choses. Maintenant, il va démarrer sur autre chose. Le prochain épisode, ce sera sur Fate. C'est clair.
Ah bah putain, on n'a pas fini de se faire chier.
Oh, putain, je suis absolument pas d'accord, mais bon, enfin, t'as le droit.
Moi, je suis pas convaincu non plus. Ça m'intéresse pas des masses, quoi. Bon, enfin, tant pis.
Je sais que Kingen, même s'il l'a pas lu, me soutient.
Mais moi je te dis, j'ai lu 4 pages, le preview, et j'avais trouvé ça excellent, parce que j'attendais vraiment d'en savoir plus sur Steppenwolf, et sur cette soi-disant Amazon qui normalement...
Ah bah on en apprend pas plus, donc voilà. On apprend qui est sa mère,
attends de voir Fury et tu verras.
Bon, de toute façon, on va mettre tout le monde d'accord. On peut pas forcément être aussi bon que sur All New X-Men.
Ah oh, non,
ok.
Oh, mais...
On va mettre tout le monde d'accord, c'est clair, tu as tort.
Le mec bon, qui dit bye pour Thunderbolt, quoi. Electra, elle ressemble à Punisher, quoi.
Pour moi, en tout cas, ce Earth 2 8 est un bail si on a envie de s'intéresser à justement ce qui se passe sur Earth 2. Voilà, sur l'ensemble de la Terre. Il doit gérer un monde de A à Z avec une seule série. Bah voilà, moi je trouve qu'il s'en sort très bien.
Bah pour moi ce sera un ticket de moins et c'est en voie de arrêt total de la série. Donc je vais voir qu'il se bouge un peu le cul. Parce que le truc de poser l'univers, de poser les bases, de le faire lentement, ça marchait peut-être il y a 20 ans. Aujourd'hui il faut un peu se bouger. Hein.
Bah non, moi au contraire je suis très content de lire un comic comme ça, au moins.
Bah pas voilà. Moi.
Bref,
on verra si la série survit.
Bah dites-nous auditeurs, vous qui si vous la lisez, ce que vous avez pensé de cet épisode 8. Voilà, bon, on verra un peu les réactions des gens.
Si y en a personne
qui
ne l'a lu.
S'il y en a qui la lisent parmi nos auditeurs.
Je pense que franchement, je serais surpris que quelqu'un l'ait lu.
Oh,
et le dise dans les commentaires.
C'est une série qui a bonne presse. Hein.
C'est une série qui a bonne presse.
Ouais.
Après, les
ouais,
chiffres de
bon,
vente ne sont pas les meilleurs
presse.
Non plus. Quoi, même.
Ah, mais voilà, si, ça vend bien. Hein.
Mais moi, je serais pas contre d'avoir un backup. Mais franchement, est-ce viable commercialement pour DC?
Bah, ça serait quand même mieux. Parce que comme tu le dis, il a tout un univers à lui tout seul à gérer. Donc il faut qu'il ait un peu plus de matos.
Commercialement,
plus de place.
Je suis pas certain que ça marcherait. Tu vois, je pense que s'il la passe à 3,99, il se plante. Le seul moyen pour lequel il pourrait le passer à 3,99, ce serait d'ajouter deux ou trois autres séries dans l'univers Earth 2 et en faire pour celle-ci le flagship title, quoi. C'est tout. On verra ce que DC nous prévoit pour cette série dans les mois prochains.
Ils nous ont promis depuis le début un crossover entre la Justice League et Earth 2 vers les numéros 20 et trucs comme ça. Donc...
La traditionnelle rencontre voilà. Qu'il y avait comme tous les ans avant entre la JLA et la JSA. On va terminer l'émission avec les TPB sortis cette semaine. On a notamment le deuxième hardcover de Batwoman. Je pensais que quelqu'un répondrait directement.
Non, je l'ai pas lu moi. Donc
c'est très bon. Moi j'aime bien.
Le septième TP de Northlanders, série qui ne paraît pas en France.
Qu'on aimerait bien, bah, les deux premiers sont sortis, on aimerait bien voir la suite, un aspect urban, comme American Vampire aussi. Merci de ne pas nous oublier.
C'est un style qu'on n'a pas beaucoup en comics en français, tout ce qui est un peu héroïque, enfin, pas héroïque fantasy, mais je veux dire, le brutal, un peu viking et compagnie.
Mais je pense que Northlanders n'a peut-être pas remporté les chiffres de vente suffisants. Pour American peut-être. Vampire, je ne comprends pas la raison, étant donné que c'est du Scott Snyder et que le mec est bankable, quoi. Bon, ça...
Et puis ça, j'ai l'impression que ça se vendait bien aussi. Donc...
C'est peut-être parce que c'est pas terrible au final.
Ah non, c'est très bien.
D'ailleurs, c'est très bien.
Mais voilà, mais j'aime bien.
Faut le lire
ça.
En TPB, mais c'est très bien.
Tu vois, on s'engueule il y a 2 minutes, mais là, on est d'accord.
Et
dans 2 minutes, on va enlever nos vêtements et faire des choses.
Ouais, bah, je vous laisserai dans ce cas-là.
Non, tu les feras tout seul, les choses.
Et The Unwritten aussi en français. Faudrait que ça revienne.
Ouais, voilà, mais c'est prévu de revenir, mais on sait pas quand.
Voilà. Mais c'est le manque d'informations moi, qui me gêne.
On pourra peut-être leur poser la question quand on les verra à Angoulême dans quelques semaines.
Exactement.
On continue les TP avec la sortie d'un gros hardcover Absolute Batman and Robin qui contient les 16 premiers épisodes de la série Batman et Robin par Grant Morrison pré-New 52
quand
ainsi
il était
que
inspiré.
Le Batman The Return numéro 1.
Quand il était bon.
Du côté de chez Marvel, on a le Minimum Carnage qui sort en TP. Bonne petite mini d'action, enfin bon petit crossover entre Scarlet Spider et Venom. On a le... Je vois plus le truc. Voilà, le Gil Kane Amazing Spider-Man Artist Edition Hardcover. Donc un gros artiste édition chez IDW.
Ouais, l'arnaque de la semaine.
Mais non, c'est pas...
C'est très cher, mais c'est très beau.
T'as 175$ pour 100 pages. Je me fous que ce soit en A3.
Bah, 170$, c'est le prix d'une planche originale. Et là, t'en as 100 qui
tu
sont
parles.
Reproduites à les...
Attends, j'aime beaucoup Gil Kane, mais faut arrêter d'un bout de se foutre de la gueule du monde.
Mais ce sont les artistes éditions de chez IDW. Ils avaient fait
oui,
la même chose avec Walt Simonson sur Thor.
Bon, en même temps, s'ils ont du public pour le vendre. Hein,
Mais ce sont des objets de collection, quoi.
Bah, collectionneurs
sont
ravis,
qui ont
mais moi, je garde
acheter des trucs qui valent cher. Voilà, c'est une morale qui s'applique très bien.
Ça reprend donc 8 épisodes de Spider-Man, je ne sais pas lesquels. Mais en tout cas, ce sont donc, comme on l'a dit, des planches originales reproduites à l'identique, juste ancrées. Et voilà, vous pouvez voir toutes les notes pour le coloriste, toutes les notes qu'ont mis le dessinateur et l'encreur sur les pages. Enfin voilà, ce sont des véritables objets. Enfin, on termine avec la sortie d'un roman. C'est le New Avengers Breakout, écrit par Alicia Quitney. Oui, voilà, c'est bon, j'ai plus mes lunettes, donc je ne vois plus. C'est donc une version écrite en roman d'une aventure des New Avengers.
Le premier arc.
C'est un peu pourri, mais bon.
Bah, ça avait déjà marché par le passé, hein, des...
Bah, c'est le seul bon arc de New Avengers, donc...
Non, mais faire des arcs comme ça,
adapter des comics en roman, je trouve ça un peu naze.
Mais rappelez-vous, on avait déjà eu ce débat, parce qu'il y avait Civil War qui était sorti comme ça.
Il y avait Civil War,
est-ce que franchement, ça vaut la peine?
Ultimate.
DC l'avait fait aussi avec la mort de Superman, adapté en roman, comme ça. Voilà, pour des gros...
No Man's Land aussi, j'étais par Greg Rucka.
C'est vrai, oui. Mais voilà, c'est pas... Enfin, il y aura peut-être un public pour acheter ce genre de roman, après tout, pourquoi pas. Bref, voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était un petit peu le choix des PB assez sympathiques qu'il y a de sortie. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est ceux qu'on a préféré retenir. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, ou encore nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site et sur iTunes. Et puis, avez-vous peut-être un dernier petit mot à ajouter pour nos auditeurs?
Chat.
Oui, passez un bon week-end avec plein de bonnes lectures.
Ouais. Dévalisez vos comic shops, c'est la rentrée, il y a plein de sorties et bah, faut bien les dépenser, ces étrennes.
Faites-vous plaisir.
Ces étreintes.
Allez, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Ciao à tous, bande de 1. Hein, voilà.